Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour votre fidélité. Soyez les bienvenus sur RTL, mais également RTL.fr et l'application RTL si vous souhaitez allier l'image au son. Soyez les bienvenus dans cette émission, je le disais, qui vous ressemble. Et merci pour votre fidélité. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h30 et en direct, bien sûr. Et j'espère qu'aujourd'hui, ça ne va pas trop chauffer. Car à un an des élections présidentielles et en pleine crise sanitaire, eh bien, les conversations sur ceux qui nous gouvernent vont bon train. Mais vous, justement, est-ce que vous parlez politique avec vos proches, vos amis, vos collègues? On n'a que dédain pour l'opinion des autres. Pourtant, s'ils sont de votre avis, eh bien cela rassure, selon l'écrivain Jacques Chardonne. Alors, aborder ce sujet de la politique, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Pourquoi les échanges peuvent-ils dégénérer? Vaut-il mieux se taire? Êtes-vous ami, vous, avec une personne qui ne partage pas vos opinions? Et pourriez-vous tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un dont les idées sont aux vôtres opposées? On en parle tout de suite avec nos invités que je vais accueillir dans un instant, mais également avec Julien qui est en ligne avec nous. Julien, bonjour.
Bonjour Flavie.
Soyez le bienvenu sur RTL, merci d'être avec nous. Vous avez 27 ans, Julien, et on va revenir, si vous le voulez bien, sur cette soirée de Noël que j'ai qualifiée d'explosive, c'est bien le cas?
Oui, je pense que c'est le bon terme, au moins celui-là.
Bon, ça vous fait sourire, et pourtant ça n'a pas été drôle. Voilà un Noël qui a viré quand même à je dirais, un règlement de compte. Qui avait-il autour de la table à ce Noël?
Alors, c'était en comité assez réduit, il me semble qu'on était un petit peu moins d'une dizaine.
Ouais.
Et donc, il y avait mes parents, puisque c'était chez eux, c'était organisé par ma mère, et il y avait mes frères et sœurs, et il y avait des oncles et des cousines.
D'accord, ok. Une famille plutôt unie, qui s'entend bien?
Qui habituellement s'entend bien, qui ne se voit pas tout le temps, mais qui entretient des rapports cordiaux. Généralement.
D'accord. Alors, il y a le noyau familial, vos parents, vos frères et sœurs, de ce que j'ai compris. Et puis, il y a aussi donc ses oncles. Et un oncle peut-être en particulier. Quelle relation avez-vous ou aviez-vous avec cet oncle?
Alors, c'est l'oncle duquel j'étais le plus proche. Moi, j'ai grandi, j'étais le seul garçon dans ma fratrie. Donc, au-delà de mon père, c'était aussi une sorte de modèle masculin quand j'ai grandi. Et ça, jusqu'à mon adolescence, finalement, quand j'ai commencé à comprendre les propos qu'il pouvait tenir de temps en temps.
C'est-à-dire, vous parlez de l'adolescence, qu'est-ce que vous avez réalisé à ce moment-là?
Je pense que j'ai pris la portée de certaines blagues, de certains propos qui, dans les oreilles d'un enfant, ne veulent pas dire grand-chose. Et puis, en disant, on se rend compte que voilà, c'est des paroles que, en tout cas, moi, je considère comme racistes et qui, je pense, le sont.
Et qu'est-ce que vous ressentiez quand vous aviez 12-13 ans et que vous entendiez des propos racistes ou des blagues racistes autour de la table?
En tant qu'adolescent, déjà qu'on est révolté facilement.
Ouais.
Moi ça me sortait de moi, surtout que je sais pas, on n'a peut-être pas grandi dans le même milieu. J'ai peut-être pas grandi dans le même milieu que lui, mais moi, c'est des propos qui touchaient des copains à moi, quoi. Donc forcément, j'étais outré quand j'entendais ça.
Mais il s'en prenait à vos copains ou est-ce que c'était
pas particulièrement, mais moi je le ressentais comme ça. Je le ressentais comme des attaques envers eux parce que je les côtoyais et que effectivement, c'est à eux qu'ils s'en prenaient indirectement. Oui.
À 12-13 ans, est-ce qu'on peut s'élever justement contre une blague raciste?
À 12-13 ans, on s'énerve au début. On a du mal à argumenter, mais on s'énerve.
Ouais.
On s'énerve. C'est plus tard qu'on arrive à pas prendre du recul, mais en tout cas à argumenter un peu plus.
Bon, les relations jusqu'à Noël dernier, donc vous aviez perçu chez votre oncle des opinions, a priori, qui étaient assez éloignées des vôtres. Là, maintenant, vous avez 27 ans, Noël arrive. L'année a été difficile pour tout le monde, on est bien d'accord. Donc, on se dit, c'est le moment où la famille se retrouve autour de la table. Comment s'est passé ce début de Noël?
C'est le moment où on se retrouve autour de la table. Et puis, c'est vrai que comme on est tous heureux de se retrouver, au départ, tout le monde s'adore. Et puis, peut-être que l'erreur qui a été faite surtout dans cette soirée, c'est de fêter très rapidement Noël avec autour de quelques verres.
Ça fait du bien, hein?
ça
surtout ce Noël-là.
Beaucoup de bien. Ouais,
d'accord.
Ça faisait beaucoup de bien.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Les langues se délient.
Ouais. Alors, les langues se délient. Donc, c'est un Noël plutôt festif où on boit un coup avec modération, mais quand même. Et votre oncle, il est où? Il est à côté de vous à table?
Mon oncle, il est juste en face de moi, un petit peu en biais, mais en face de moi, on se fait face, quoi, en fait, finalement.
D'accord. Bonne pioche.
Oui, bien vu.
Bien vu, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, forcément, réunion de famille, un petit peu d'alcool, on parle de sujets et d'autres, et puis le sujet de la politique vient forcément, c'est jamais une bonne idée, hein, mais il vient forcément, et donc, connaissant un petit peu les avis de mon oncle, il commence un petit peu à dire des propos, à voilà, à parler, donc c'est, enfin, pour le dire un petit peu comme ça a été dit, hein, c'est de toute façon les Arabes c'est tous les mêmes, enfin voilà, c'est ce genre de, ça va loin quand même, c'est ce genre de propos,
ouais,
qui dont la famille a, je pense, un peu l'habitude, donc c'est un petit peu comme s'ils n'entendaient pas, et moi à ce moment-là je sais que je dois faire comme si, enfin voilà, pas faire attention, pas relever, parce que c'est, bah, c'est un peu le cliché du tonton un peu relou, quoi.
Ouais.
Et qu'on alimente, il faut pas alimenter. Et sauf que voilà, je sais pas, je pense que c'est l'alcool aussi. Bah, j'ai pas su m'arrêter. Et puis voilà, j'ai commencé à contre-argumenter, à lui dire que j'étais pas d'accord. Et dans ces cas-là, bah voilà, il continue de s'enfoncer, à aller plus loin dans les propos. À parler, enfin voilà, de choses, de ses valeurs à lui qui pour moi n'ont aucun sens, et donc voilà, on commence à s'accrocher un peu sur ce sujet-là.
Comment réagit votre entourage au début?
Bah alors au début c'est un petit peu, c'est tout le monde est un petit peu pas stupéfait, mais tout le monde est un peu interdit en se disant si on intervient ça va dégénérer encore plus et peut-être qu'ils vont s'arrêter tout seuls.
Mmh.
Sauf que ça a pas été le cas ce soir-là. Je trouve qu'on reculait sans l'alcool, mais là ça a pas été le cas. Et voilà, au bout d'un moment quand ça a vraiment commencé à partir un petit peu en vrille, où la voix a commencé à se lever un peu, c'est ma mère qui, en tant qu'hôte, a essayé d'abord de calmer le jeu, et puis comme mon oncle continuait, c'est vrai moi aussi, hein, enfin on était deux dans cette histoire, a essayé, en tout cas a pris ma défense.
Alors on va se retrouver dans un instant, parce qu'évidemment ça c'est le début d'une soirée, même si c'est la fin de la soirée, en tout cas c'est le début d'une autre histoire, hein, c'est le début d'une histoire d'un dîner qui va virer au règlement de compte. Si vous voulez bien, on va se retrouver dans un instant. Julien, vous allez nous expliquer tout ça, et puis il en est une qui doit vous écouter, c'est Anne Muxel qui est justement sociologue, directrice de recherche au Centre de Recherche Politique de Sciences Po, qui vous écoute et qui dans un instant justement pourra réagir à votre témoignage qui illustre bien à quel point la politique peut diviser, surtout un soir de Noël quand on a un peu trop picolé. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL.
Vous venez d'entendre Vita et Slimane avec leur dernière chanson De l'or.
Flavie Flamand sur RTL
jusqu'à 15h30.
Une soirée en or, c'est Julien qui nous la raconte dans cette émission consacrée je vous entends déjà sourire Julien, donc c'est bien. Dans cette émission qui pose aujourd'hui une question, est-ce que c'est une bonne idée de parler politique avec ses proches, avec ses collègues de bureau lors d'un premier dîner ou même en famille? En général, la famille se retrouve donc à Noël, c'est votre cas Julien, Noël dernier. Vous nous avez expliqué que vous vous retrouvez évidemment en petit comité, vos parents, la fratrie et donc un oncle dont vous avez perçu vers l'âge de 12-13 ans quand vous étiez adolescent qu'il avait des propos qui déjà étaient bien loin de vos convictions qui étaient en train de se forger à l'adolescence, qui étaient des convictions d'ouverture des convictions, d'amour et de respect de son prochain. C'est-à-dire que, en fait, clairement, vous l'avez dit, c'est un tonton relou raciste. C'est un peu ça.
C'est exactement ça. C'est un peu cliché, mais c'est ça.
Bon, d'habitude, tout le monde se tait lorsque ce monsieur parle de politique. Et puis ce soir-là, l'alcool aidant, et peut-être vos convictions aussi, j'imagine qu'on finit par en avoir peut-être parfois ras-le-bol d'entendre dire des choses qui nous paraissent infondées et puis en plus de ça, humainement, assez déplorables. Julien, vous vous êtes dit, ce soir, je ne laisse pas passer. Bonne pioche, c'est Noël, hein. Bon. Donc votre mère essaye d'apaiser les choses. Et comment le ton est-il monté? Parce que c'est allé loin quand même.
C'est allé loin, oui, parce que le ton monte. Et puis quand le ton monte, enfin en tout cas dans ce cas-là, le ton est monté. Et puis rapidement, c'est propagé sur d'autres sujets, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, quand on s'embrouille sur le même sujet, surtout sur de la politique, pendant une bonne heure et demie, et qu'on n'a plus grand-chose à se dire là-dessus, on ressort des vieilles querelles familiales, des petites rancœurs, des petits non-dits, et on va s'énerver sur ces sujets-là, quoi.
Donc c'est-à-dire que la politique a été tout à coup l'antichambre de conversation ou le prétexte de conversation qui allait beaucoup plus loin.
Exactement.
C'est-à-dire ?
Oh, c'est des rancunes familiales et qui parfois en plus sont des petites jalousies presque enfantines qui remontent à l'enfance de la petite jalousie de l'oncle sur ma mère de quand ils étaient petits, parfois inversement aussi. Enfin voilà, c'est des choses qui peuvent remonter très loin dans le temps et qui pourtant sont ravivées comme si c'était hier, en partant d'une discussion sur la politique.
Et donc là, ça n'est plus posé comme conversation, mais ça se met à s'animer très sérieusement.
Bah alors ça s'anime très sérieusement et puis au bout d'un moment, ça se calme net. C'est-à-dire que ça monte et puis d'un coup ça s'est arrêté. Mmh. Et je pense que tout le monde a compris et c'est même peut-être plus effrayant parce que c'est le moment où on se dit donc voilà, c'est la prochaine étape, c'est quoi ? C'est on s'insulte.
C'est ça. J'allais vous demander parce que parfois on se met sur la tronche. Hein, parfois quand on parle de politique, hein. Ça, vous n'êtes pas allé jusque là.
On a, je pense, évité de très très peu les insultes, parce que malgré tout, c'est des frères et sœurs et c'est la même famille, mais on les a évités de très très peu. Et puis aussi, c'est Noël, on était en début de soirée, entre guillemets, enfin, il restait les cadeaux à ouvrir, quoi.
Alors, j'allais vous demander, vous êtes du genre à vous donner les cadeaux en début de soirée, un peu plus tard?
Normalement, la fin. Donc, autant vous dire que l'ambiance en avait pris un coup, quand même. Mais ouais, non, voilà, les cadeaux ont été ouverts... pas dans le plus grand silence, mais presque, quoi. Tout le monde se faisait un peu la gueule. On entendait le bruit du paquet cadeau qui se déchire. Enfin voilà, c'était pas.
Et des merci. Votre oncle vous a fait un beau cadeau ce soir-là ?
Eh ben, à vrai dire, je crois que c'était un service à vaisselle. C'était pas hyper original, c'était pas foufou, mais bon, ça se prend. Et puis je l'ai pris aussi comme une forme de. C'est pas de presque de pardon déjà de, quand il est tout un cadeau alors qu'on s'est embrouillé depuis pendant 2 heures avant, quoi.
Alors, on va revenir sur les conséquences de ce dîner, mais on accueille tout de suite Anne Muxel qui est avec nous. Elle est directrice de recherche au CEVIPOF, c'est le Centre de recherche politique de Sciences Po, et elle est autrice d'un ouvrage, Toi, moi et la politique, amour et conviction, aux éditions du Seuil. Anne Muxel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Soyez la bienvenue sur RTL. La politique, justement, et les relations interpersonnelles, c'est votre dada, si je puis dire, Anne Muxel. Oui. Est-ce que c'est souvent autour de la table que ça se passe, comme vient de nous le raconter Julien, et en plus un soir de Noël ?
Oui, tout à fait. Je crois que le témoignage que nous venons d'entendre est tout à fait emblématique de ce qui peut se passer effectivement dans une famille au sujet de la politique, parce que il faut bien prendre conscience que si ce n'est pas de politique dont on parle le plus en famille, c'est malgré tout en famille que l'on parle le plus. De politique, on en parle plus qu'avec ses amis, on en parle plus qu'avec ses collègues. Et c'est vrai que ces discussions politiques en famille, quand elles ont lieu, elles sont évidemment chargées d'affects, de sentiments, de toute l'histoire finalement aussi qui relie tous les membres d'une famille. Et ça a été très bien dit par
Julien.
Le témoignage que nous venons d'entendre, par Julien, pardon. Et donc ça fait ressortir finalement la politique peut devenir très vite un révélateur aussi du substrat affectif de la famille. Donc, il y a deux solutions. Soit, effectivement, on monte au créneau, on n'a pas peur de la dispute, on va jusqu'au bout, et c'est ce qui s'est passé. Ou alors... on fait la politique un sujet tabou. C'est-à-dire qu'il y a aussi la possibilité, beaucoup de familles connaissent cette situation, on se réunit, on est ensemble, on ne veut en aucun cas compromettre le lien affectif qui nous unit, et donc on ne parle pas de politique. C'est un sujet tabou. Mais cela montre bien en tout cas que c'est un sujet éminemment sensible, épineux. Finalement, la politique fait partie de moi ce que j'appelle la politisation intime, c'est-à-dire de l'identité intime de l'individu. Les convictions sont vraiment au cœur de ce qui vous constitue et de ce qui définit votre être profond. Et donc, ce n'est pas si simple, en fait, d'ailleurs. Vous l'aurez remarqué autour de vous, de dire pour qui on a voté, par exemple. Mmh. Le secret du vote reste, par exemple, toujours quelque chose de très pratiqué. y compris au sein de la famille. J'avais pu mesurer, par exemple, le fait que c'est un Français sur deux qui dit à ses enfants ou à ses parents pour qui il a voté. On échange davantage à ce sujet entre conjoints, mais au sein du cercle de la famille, ce n'est pas si facile d'affirmer ainsi son vote.
Alors, on va se retrouver dans un instant à Muxelles. Julien, bien évidemment, vous restez avec nous parce que ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir à quel point aussi le visage politique des familles a changé. Il fut un temps où on recevait, je dirais, la politique en héritage. Et aujourd'hui, peut-être, mais ça, c'est vous qui allez nous le dire, Anne Muxelles, les avis diffèrent et les enfants s'affirment peut-être plus aujourd'hui qu'à une époque. On se retrouve dans un instant sur RTL.
RTL.
On est fait pour s'entendre. Bon après-midi sur RTL.
RTL. Toujours avec vous. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Tiens, je vous pose la question. Est-ce que vous êtes amie avec une personne qui ne partage pas vos opinions politiques? Est-ce que vous pourriez aussi, je ne sais pas, tomber amoureux de quelqu'un dont les idées ne sont pas les vôtres? On va en parler un petit peu plus tard dans cette émission. C'est notre sujet jusqu'à 15h30 en direct sur RTL. Julien, vous êtes toujours avec nous. Vous nous avez raconté votre Noël explosif. Et Anne Muxelles, vous avez la gentillesse de nous rejoindre. Et vous êtes spécialiste des relations politiques interpersonnel. Dites-moi, Anne Muxelles, il fut un temps où les enfants votaient comme leurs parents. J'ai le sentiment, en tout cas. Est-ce que vous pouvez me le confirmer? Est-ce que les choses ont changé?
Alors, les choses n'ont pas changé dans la mesure où il reste toujours une grande majorité de Français, les deux tiers, qui s'inscrivent dans la continuité des choix idéologiques, c'est-à-dire se situer à gauche, à droite, ou ni à gauche ni à droite du reste. Oui. Donc les grandes orientations idéologiques, elles continuent à se transmettre dans la mesure où finalement elles relèvent d'une transmission par l'affectif, par des mécanismes d'identification qui opèrent au sein de la famille. Mais ce n'est pas parce qu'on se dit de gauche ou de droite, ou ni de gauche ni de droite, comme ses parents, pour autant que l'on va voter de la même façon. Mmh. On peut être de gauche, comme ses parents, et voter pour des candidats ou des forces politiques différentes au sein de la gauche. Même chose à droite, et même chose encore plus dès l'instant où l'on se dit comme ses parents, ni de gauche ni de droite. Donc on voit qu'il y a là à la fois des éléments de reproduction, de continuité, au travers notamment de cette identification à ce qui caractérise un peu la bipolarisation gauche-droite qui continue d'organiser à la fois notre système politique, mais aussi les identifications personnelles des individus à la politique, et en même temps des éléments de changement, d'adaptation, de modification qui peuvent créer des écarts au sein de la famille. Par exemple, on peut très bien avoir des parents de droite, de droite classique, si je veux dire, et puis soi-même se mettre à voter pour le Rassemblement national. Ce n'est pas tout à fait la même chose et ça peut créer des tiraillements. D'une façon générale, ce sont les positionnements extrêmes, que ce soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, qui sont évidemment facteur de plus grands conflits au sein des familles que les positions les plus modérées.
Voilà, c'est ça, Julien. Votre oncle est la seule personne dont on se dit qu'elle peut être dans une extrême, en l'occurrence le Rassemblement National, si j'ai bien compris. C'est la seule personne de votre famille.
Exactement, et puis une grosse partie de ma famille qui est plutôt, enfin qui vote, etc., mais qui est plus ou moins désintéressée de la politique. Donc c'est vraiment la seule personne qui en plus est très politisé, mais en tout cas plus que l'autre partie de ma famille, et effectivement dans un extrême.
Je vous en prie, Anne Muxelles, pardon.
Non, mais j'allais dire, c'est très très important, parce qu'on se rend compte que, bien sûr, la question du conflit politique, elle fait problème, surtout lorsque les personnes sont politisées. Évidemment que quand les personnes sont plus indifférentes, plus distantes, voire moins intéressées par la politique, eh bien voilà, les chances de se fâcher sont moins importantes. Donc, mais quand on engage des convictions fortes, qu'on y croit, qu'on est politisé, alors c'est là où ça peut monter effectivement aux extrêmes.
Alors, Charles Laroche nous rejoint. Bonjour Charles Laroche.
Bonjour Flavie.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes avocat de formation, vous êtes auteur, vous enseignez la rhétorique à Sciences Po, ainsi qu'à Eloquentia. Vous venez d'entendre le témoignage de Julien, vous venez d'entendre les propos d'Anne Muxelles. Qu'est-ce que ça vous inspire déjà?
Alors, ce qui est passionnant dans ce qu'a expliqué non seulement Julien, mais aussi Anne Muxelles, c'est l'idée que la politique dans beaucoup de familles est un tabou. Et en fait, comme dans une négociation où il y a des personnes consignantes qui vont faire en sorte de mettre les choses sous le tapis, on va faire, si vous voulez, on va oublier tout ce que dit la personne et les propos racistes pour essayer de ne pas créer du conflit. Et ça, dans toutes les familles, on voit ça, et c'est un problème éternel, parce qu'il y a une caricature qu'on voit dans tous nos livres d'histoire depuis un siècle, c'est celui de l'affaire Dreyfus, où il y a justement les familles qui disent surtout on ne parle pas de l'affaire, et ils en ont parlé, et à la fin, tout le monde se met sur la gueule. Et en fait, ça, c'est une constante, et c'est ça qui est assez fascinant, notamment quand on regarde les travaux justement d'Anne Huxell, c'est qu'il y a des choses qui changent finalement assez peu à travers les siècles, et que le tabou de la politique n'empêche pas l'irruption des conflits.
On a entendu aussi Julien nous dire que la seule personne, je dirais, de politiser, d'engager politiquement était ce fameux oncle avec lequel vous vous êtes fâché. Julien, vous allez nous dire où vous en êtes dans vos relations aujourd'hui. Il en est, puisque vous êtes professeur de rhétorique, il en est qui ont le goût aussi de la conversation politique. Qui vont systématiquement se faire une joie de mettre ça sur le tapis entre la fromage et le dessert.
Oui, il y a une passion, parce qu'il y a aussi l'idée d'affirmation à travers la parole, l'idée d'exister. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est pourquoi ça génère autant de conflits, une parole extrême. C'est souvent parce que, par idéologie, on a plus un souci d'affirmer ses opinions plutôt que de rechercher la vérité. Et ce qui crée du conflit souvent au sein des familles, c'est qu'on peut être en désaccord sur des opinions, sur des interprétations, sur une notion de responsabilité, de liberté, etc. Mais sur des faits, c'est beaucoup plus compliqué. Et les essentialisations, les amalgames, sont un sujet de tension pour ceux qui sont modérés par nature.
C'est le cas, Julien. Effectivement, vous sentez que dans le discours que vous a tenu votre oncle ce soir-là, il y avait aussi un goût de la provoque, et puis finalement, la discussion n'était pas possible, en deux mots.
Il y avait un goût de la provoque, et puis en fait, on n'est pas d'accord sur des choses essentielles, sur des choses qui tous les deux nous apparaissent comme des réalités et qui sont en contradiction. Donc à partir de là, c'est très compliqué de tomber d'accord.
Comment ça s'est passé ? Donc on s'offre les cadeaux dans une ambiance mortifère, et donc depuis, parce que vous êtes, de ce que j'entends, aussi une famille, les familles qui se réunissent à Noël sont des familles qui se réunissent parfois aussi à d'autres moments de l'année. Comment ça s'est passé ? Quelles sont les conséquences de cette soirée ?
Alors jusque-là, on a fait plusieurs réunions de famille, mais où on n'était pas là tous les deux.
Volontairement. En fait, y a pas vraiment... Est-ce qu'on a fait en sorte de pas vous mettre en présence suite à cette grosse engueulade?
Je pense qu'on nous a invités en même temps, en sachant très bien qu'il y en a un des deux pour qui ce serait plus difficile de venir, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Et puis en fait, j'aimerais dire que j'ai un peu pas peur, mais qu'il y a une appréhension, et en fait même pas, parce que j'ai l'impression que ça va faire comme d'habitude, et que la prochaine fois qu'on se reverra, on fera tous les deux comme si on avait oublié, parce que on fera passer la bonne ambiance familiale avant tout, quoi.
Et ça, vous aurez peut-être du mal à avaler la pilule, non ? Ou pas ?
Bah, en fait, je pense que j'aurais du mal à avaler la pilule à partir du moment où on repartira sur un sujet politique, en fait.
Est-ce que ça aussi...
Et où je me souviendrai de tout ça.
Est-ce que ça a aussi eu une influence sur vos relations avec, entre votre mère qui a pris votre défense et son frère ?
Alors moi, je suis allé, enfin pas m'excuser aussi, pas vraiment m'excuser, mais en parler à ma mère juste après la soirée, un peu pour dire, désolé d'avoir pété l'ambiance, quoi. Et elle avait pas l'air de m'en vouloir ça, mais oui, si ça avait pu se passer autrement, je pense qu'elle aurait préféré que ça se passe vraiment autrement.
Anne Huxell, dernière question, est-ce qu'il est des familles qui explosent pour ce genre de choses ? Parce qu'il se cache plein de choses finalement derrière des opinions politiques, on l'a entendu, même des rancœurs familiales, donc...
Oui, c'est un révélateur. Dès l'instant où ça fait ressortir effectivement des conflits latents, non dits, particulièrement d'ailleurs au niveau de la fratrie. Dans les travaux que j'ai pu mener, c'est vrai que c'est souvent au niveau des fratries que la politique vient faire exploser des relations qui étaient déjà elles-mêmes abîmées par de la jalousie, des rancœurs, des rivalités, etc. Ouais. Et c'est généralement assez douloureux. C'est beaucoup moins fréquent entre parents et enfants. Les cas de rupture des parents vis-à-vis des enfants, par exemple, sont assez rares.
Je comprends.
Les cas de rupture des enfants, à l'inverse, avec leurs parents, sont un peu plus nombreux. Mais assez rare. Et en gros, c'est 10% dans 10% des familles dans lesquelles il y a une franche rupture, c'est-à-dire des gens qui ne vont plus se revoir, qui ne vont plus vouloir communiquer suite à une dispute politique.
Merci beaucoup Anne Huxell. Je rappelle votre livre « Toi, moi et la politique, amour et conviction » aux éditions du Seuil. Merci à vous. Merci Julien pour votre témoignage. Vous restez à notre écoute, évidemment. Place aux infos sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30.
Eh bien, dis donc, est-ce que parler de politique en société, en famille, avec ses collègues de bureau lors d'un premier dîner, est-ce que c'est une bonne idée? Pas vraiment lorsque l'on vous écoute. Vous avez peut-être entendu le témoignage de Julien lors de cette première demi-heure. Hélène l'a écouté. Je me retrouve absolument dans le commentaire de cet auditeur. J'ai explosé à table lors d'une réunion de famille. Mon beau-frère a tenu des propos excessivement racistes, voire odieux. Son engagement politique auprès de l'extrême droite a grandement participé à ma rupture avec ma sœur et avec lui. Ma fille a 6 ans aujourd'hui et je refuse qu'elle entende ce genre de propos. C'est totalement à l'encontre de ma vision du monde. Laurent, lui, s'est fâché avec un membre de sa famille depuis un débat houleux lors du repas de Noël. Alors lui, c'était en 2019. Seul son avis avait de la valeur. Il méprisait mes propos. Nous avons failli en venir aux mains. Je ne le côtoie plus depuis, donc parler politique avec son entourage, en voilà une mauvaise idée. On accueille Jean-François Marmion sur cette antenne. Bonjour Jean-François Marmion.
Bonjour Flavie.
Vous êtes psychologue et auteur de l'ouvrage Psychologie de la connerie en politique aux éditions Sciences Humaines. Eh bien, dites donc, il en est quelque part question hein, dans les messages que l'on voit. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse, selon vous, en tant que psychologue, en arriver aux mains dans un débat politique autour d'une table?
En fait, comme Anne Muxel l'a très bien dit tout à l'heure, la politique, c'est pas un sujet anodin pour nous. On ne parle pas de goûts vestimentaires, de goûts musicaux. On se fait une certaine idée de la gauche, une certaine idée de la droite, et on se reconnaît dedans, ou on ne se reconnaît plus dedans, mais en tout cas, ça reflète des valeurs intérieures. Ça définit qui on est. Et lorsque quelqu'un de proche de nous, dans la famille, a l'air de nous rentrer dedans pour ce qu'on est, c'est insupportable, parce que en famille, on a l'impression que c'est la valeur refuge, qu'on devrait tous être unis, tous aimés, que c'est un peu le cocon, l'îlot face à la folie du monde, vous voyez. Et lorsque dans ce cocon, on se retrouve avec des gens qu'on devrait aimer et qui vous rentrent dedans pour ce que vous êtes, la situation est ingérable. Mmh. C'est d'autant plus injuste, c'est d'autant plus douloureux. Et puis, pour ajouter à ça un certain lot de déceptions qui peut-être ne sont pas formulées d'habitude sur d'autres sujets, et là, c'est la goutte d'eau, c'est l'étincelle, c'est ce qui fait tout exploser, et c'est pour ça qu'on se retrouve à déverser des flots de reproches qu'on n'avait jamais osé dire auparavant par protocole. Et puis là, ça explose une bonne fois.
Alors, c'est intéressant, on va se demander aussi si ça nous ne montre pas quelque part sous un jour nouveau. Pauline, j'ai quand même entendu une amie de droite dire un jour qu'elle avait appelé sa mairie car des SDF dormaient devant son immeuble et qu'il était temps que la droite soit réélue. Je n'ai pas relevé car si je le faisais, je lui administrais 2 claques en bonus. Parler politique avec ses proches est une bien mauvaise idée quand ils ne partagent pas votre avis. Alors là, je me tourne vers vous aussi, Charles Laroche. Pauline, ce qu'elle nous explique, c'est qu'elle a vu son amie sous un jour qui n'était pas le plus noble, je dirais.
Alors, il y a deux choses dans ce témoignage qui sont très intéressantes. C'est la première, c'est que la politique fait irruption à l'occasion de d'autres sujets. C'est-à-dire qu'on parle rarement, sauf à l'occasion des élections, de politique en elle-même, mais c'est par exemple le fait de porter bien son masque, la gestion de l'épidémie, ou alors des SDF dans la rue, que tout d'un coup, il y a tout un chemin de valeurs qui fait irruption. Et là, ce qui est intéressant, en fait, c'est l'idée, ça serait une mauvaise idée de parler avec des gens parce qu'ils n'ont pas les mêmes opinions que nous. Et ça, en fait, là où je suis quand même... J'essaie de revenir à la question, est-ce que c'est une bonne idée de parler avec des gens en famille ou de politique, même avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous? J'ai envie de dire oui. Parce que déjà, dans une démocratie, et même en famille, l'idée, c'est l'objectif. Si on veut que ces idées restent ou adviennent au pouvoir, il faut tenter de convaincre les gens, de leur faire changer d'avis, et d'expliquer les limites d'un raisonnement, ou alors l'absurdité d'un raisonnement, pour tenter quand même d'obtenir quelque chose. Si vous voulez, la démocratie comme une famille, c'est une négociation permanente, si
bien
vous voulez.
Sûr.
Et si vous mettez hors jeu, ça ne vous apprendra pas forcément grand-chose sur la politique et sur vous-même. Donc, malheureusement, il faut continuer à parler.
Essayez, en tout cas, d'en parler. Et on va y revenir avec Jacques. Mais là, sur cette amie quand même qui, à un moment donné, demande à la mairie de déloger des SDF. On est au-delà de la politique. On est dans des valeurs humaines aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-François Marmion? Parce que là, quelque part, ça vient toucher à des choses plus profondes, quoi.
Oui, mais je crois
c'est moche,
que...
quoi, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, bien sûr. Mais je crois parfois que la politique sert aussi de prétexte pour montrer à quelqu'un le désaccord qu'on a avec lui plus en profondeur. Par exemple, il arrive même qu'on soit en désaccord avec quelqu'un en politique. Alors, mais sur la surface des choses, dans le fond, on est d'accord avec lui un petit peu, parfois ça peut arriver, mais parce que c'est lui qui est d'accord avec nous, on décide d'être contre. Mmh. Et on lui montre que d'habitude, on le tolère en fait. Il y a des jeux de rôle dans les familles. Il y a des gens qu'on a tendance à inviter parce qu'on est bien obligé. On ne peut pas faire autrement. Et là, on sait que si on parle de politique, on va lui montrer ce qu'on pense de lui d'habitude. C'est assez jouissif aussi parfois de s'engueuler avec certains.
Alors, on va y revenir, mais je reviens encore une fois, pardon, sur le témoignage de Pauline. Mm-hmm. Elle a sa copine qui déloge des SDF. C'est-à-dire qu'en fait, Pauline découvre aussi que son amie est capable de choses qui, humainement, dans l'absolu, ne se font pas. Ça génère une déception, quoi.
Ça doit avoir un impact. C'est quelqu'un qu'on devrait aimer.
Voilà.
Et qui nous déçoit.
Exact. Et ça va loin quand on met en application certaines idées politiques.
Voilà, c'est le problème de la déception, c'est même pas le problème de la politique.
C'est ça.
La politique n'est qu'une des facettes de la déception qu'on éprouve à l'égard de quelqu'un qu'on devrait aimer, qui devrait nous épauler, avec qui on devrait se souder face à ce monde de sang. Mais eh ben non! Il est passé du côté obscur.
Voilà, et ça c'est vilain.
La politique fait aussi office de révélateur sur les comportements plus profonds des individus, sur la relation à la responsabilité. Après, la question c'est de savoir est-ce que sincèrement, qu'est-ce qu'il est au bout du raisonnement de la personne qui est en face de vous. Et ça c'est toujours très difficile.
Ouais.
Parce que souvent les craintes qu'on entretient chez un adversaire ne sont pas forcément ses réelles intentions. Et je ne pense que ce n'est pas le cas, évidemment, d'après ce qu'on entend dans le témoignage de Pauline. Mais peut-être que appeler la mairie, ça peut vouloir dire, par exemple, eh bien, pour que ils sont emmenés dans une structure avec un toit, etc. Alors, je suis un peu naïf en disant ça.
Oui.
Mais aussi, il faut bien chercher à comprendre ce qui est derrière le raisonnement adverse.
Dans un instant, nous allons parler avec Jacques. Il était chiracien convaincu, responsable local UMP. Son meilleur ami était le responsable socialiste du canton. Est-ce qu'ils sont restés meilleurs amis? Réponse dans un instant.
RTL.
Flavie Flamand. 11h30, 15h30.
Flavie Flamand sur RTL.
Mes parents sont divorcés, nous écrit Adèle. Du côté de mon père, la tendance est au racisme et aux affinités avec le Rassemblement National, alors que tout ça me fait horreur. Je limite donc les repas avec eux, car je perds mon sang-froid, je passe pour une intolérante et tout cela, c'est un comble. Voilà, est-ce que c'est une bonne idée de parler de politique? Alors, vous nous parlez beaucoup de la famille, on parle pas forcément du couple, hein, mais moi je m'interroge, est-ce que vous pourriez tomber amoureux d'une personne qui ne partage pas vos opinions politiques? Et puis, il en est d'autres qui ne sont pas de cet avis. Hervé, je parle politique avec mon entourage, même si nous n'avons pas forcément les mêmes idées sur certains points. Le débat est instructif et jamais violent. Jacques est en ligne avec nous. Bonjour Jacques.
Bonjour Flavie.
Soyez le bienvenu, merci d'être avec nous. C'est souvent un héritage familial, c'est ce que vous le disiez en préparant cette émission. Vous êtes d'une famille où tout le monde avait la même couleur politique, je puis dire, où il y avait déjà des débats autour de la table.
Disons que c'était un petit peu assez proche, toujours dans un spectre très démocratique, de toute façon.
Ouais.
Et c'était des petites nuances, disons. Mais ce que je disais à Bastien ce matin, c'est que mon oncle et mon père, par exemple, ils se chipotaient toujours parce qu'il y en a un qui était un ancien combattant, un ancien compagnon de la Libération, mon oncle, qui était un héros de la guerre, et qui était fan de Gaulle absolu. Et mon père, il était plus poète, comme ça, un petit peu plus moderne, un petit peu plus... Voilà, mais c'était pas méchant, quoi.
Mais ça chauffait un peu?
Ah, des fois, un petit peu, oui, il se chicanait pas mal, oui, parce que c'était... Mais gentiment, il y avait un énorme respect.
Alors, voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'effectivement, il en est qui vont se mettre sur la tête lors de débats politiques autour de la table, et puis d'autres qui vont avoir une sorte de code d'honneur. Et ça, Jacques, est-ce que c'est ce que vous avez vécu lorsque votre meilleur ami était responsable socialiste du canton et que vous ne partagiez pas les mêmes idées avec lui?
Oui, mais écoutez, moi je l'ai connu, il était même communiste au début. Il était adjoint au maire. On a fait connaissance parce qu'on avait nos enfants qui jouaient au hockey sur glace dans la même équipe. Mm-hmm. Alors, après, on a fait des compétitions, on a fait des déplacements, on a appris à se connaître. Et puis, évidemment, force de faire des repas de parents, ben, un jour, ça commence à parler politique, quoi, inévitablement. Et moi, j'ai toujours eu plein de copains communistes parce que j'ai toujours trouvé que c'était des gens qui étaient, bien que je ne partage pas du tout leurs idées de base, c'est des gens très structurés en général. Et c'est vrai parce que moi j'ai toujours considéré que nous on était élevés chez les curés, mais eux ils avaient aussi leur petit patronage. Et quelque part c'était mieux que d'être dans la rue, abandonné à rien et de croire à rien. Et donc on a discuté, et c'était quelqu'un de super sympa. Et moi de toute façon je vois toujours plus l'homme derrière.
Mais oui.
La valeur humaine des personnes. Quelqu'un qui m'aurait parlé, par exemple, de téléphoner à la commandante tour pour faire virer des SDF,
ouais,
moi, je l'aurais zappé tout de suite. Quoi.
Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnes qui sont éligibles à votre respect, si je comprends bien, qui ne sont pas dans des extrêmes, mais qui, en même temps, ont des opinions qui diffèrent de vous, mais qui vont quelque part aussi, dans ce fameux chicanage dont vous avez parlé, vous apprendre beaucoup, comme s'il y avait effectivement un code d'honneur dans la différence. Oui. Quoi. Et c'est ce respect que l'on ne retrouve pas dans certains des témoignages. Justement, Charles Laroche, les politiques, ils se respectent entre eux-mêmes s'ils se mettent un peu sur la figure dans des débats. Est-ce qu'il y a un code d'honneur au sein même des politiques?
Alors, ce serait difficile à définir, mais en tout cas, ce qui est intéressant dans le témoignage et qu'on peut retrouver en politique, c'est que, par exemple, entre gaullistes et communistes, il y a eu une forme, dans certains cas, de respect qui est liée peut-être à la croyance en une idée commune, ou en tout cas de la grandeur, que, évidemment différente à deux niveaux entre gaullistes et communistes. Mais ce qu'on voit chez les hommes politiques, c'est peut-être, et c'est une idée, c'est que la République n'est pas un vain mot, c'est la chose commune, la res publica en latin. Ouais. Et il y a peut-être autour d'un socle commun de valeurs, bah peut-être un élément qui fait qu'on va avoir du respect. Il y a peut-être une deuxième piste entre opposants politiques. Pourquoi il y a parfois une forme de respect? S'il y a déjà le côté qu'on est dans un ring et que, en gros, ce qui se passe sur un terrain de boxe reste sur le terrain de boxe. Mais peut-être aussi parfois, et ça c'est une autre, dans le militantisme, quelque chose qu'on peut voir, c'est qu'on arrive plus facilement à parler à quelqu'un de l'autre camp parce qu'on sait qu'il n'y a pas de lutte de pouvoir. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas l'ami communiste essayer de prendre la place de la, oui, de la circonscription RPR. En revanche, on est plus méfiant vis-à-vis des gens de son propre camp.
Oui.
Et là encore, et là, là, ce qui est intéressant dans le témoignage, c'est l'amour de la dialectique et de la rhétorique dans les anciens oui, communistes est quand même quelque chose d'intéressant et ça pousse aux discussions très très argumentées et qui ne vont pas sur l'anathème et sur l'injure.
Aujourd'hui, vous avez des discussions de politique en famille avec vos enfants, Jacques?
Disons qu'ils ne sont pas passionnés de politique comme l'étaient les générations précédentes.
Ouais.
Les discussions, elles ont plus varié sur la planète, le ouais, débat, préserver l'environnement, des choses comme ça. Mais la politique politicienne, non.
D'accord.
L'humain.
Oui, ouais. L'humain et les grands sujets qui nous permettent à un moment donné de déboucher sur la politique, on y reviendra dans un instant. Jacques, je vous remercie parce que vous nous avez parlé justement avec peut-être, alors pardon de le dire comme ça, mais j'ai l'impression que c'est presque un ancien temps, moi, que j'ai connu aussi parfois autour de la table, d'un temps plus ancien où on se parlait avec respect et avec une vraie forme d'intelligence. Merci beaucoup Jacques, je vous souhaite une
merci,
bonne fin de journée depuis l'Italie. À bientôt sur RTL.
Au revoir.
On est fait pour s'entendre, Flavie Flamand sur RTL. Vous êtes bien sur RTL. Jusqu'à 15h30.
Flavie Flamand sur RTL.
Oh, dites donc, il y a Barbarella qui nous écoute. Et Barbarella qui nous dit, bah, chez nous, c'est plutôt le contraire de chez Julien. C'est le tonton relou, gaucho, écolo, donneur de leçons qui pourrit l'ambiance des réunions de famille. Soit on ne dit rien, soit on ose le contredire et ça part systématiquement en clash. Jean-François Marmion, Charles Laroche, vous êtes avec nous jusqu'à 15h30. Les grands sujets, justement, aujourd'hui, on parle peut-être moins de politique que de grands sujets. L'écologie, Charles Laroche, la crise sanitaire, la façon dont c'est géré aujourd'hui, donc l'environnement. Il y a beaucoup de sujets de société qui, à un moment donné, débouchent sur des conversations politiques.
Oui, clairement, il y a beaucoup de sujets qui dépassent les clivages politiques oui, habituels et qui ont fait irruption, qui ont toujours existé, mais qui ont fait irruption. Que ce soit, par exemple, dans les années 80, la peine de mort, où il y avait des gens de gauche pour la peine de mort, des gens de droite contre la peine de mort. Aujourd'hui, par exemple, sur le droit à mourir dans la dignité, sur le mariage homosexuel, la GPA, on peut avoir des gens qui, et c'est là où ça peut être intéressant dans les familles, c'est des gens qui se considèrent à gauche et qui vont, au nom de certaines valeurs, de la marchandisation du corps, par exemple, être contre la GPA, et des gens de droite qui, parce qu'ils sont libéraux, estiment que le droit de disposer de son corps prévaut sur ouais, tous les autres droits. Et ça, c'est des débats très intéressants, et en réalité, quand on y pense, comme c'est des sujets concrets qui tiennent à notre vie quotidienne, l'avenir de la planète, la crise sanitaire, le droit à disposer de son corps, ce sont les débats fondamentaux qui font surtout irruption dans les familles. Et c'est eux qui sont les révélateurs de ce qu'on pense réellement.
Jean-François Marmion, vous êtes psychologue. Des questions qui nous sont arrivées. Séverine qui nous explique effectivement qu'à chaque fois qu'on parlait de politique dans sa famille, ça tournait mal. Elle a des enfants, des adolescents. Comment éveiller mes enfants aux discussions politiques sans pour autant les éveiller au pugilat?
Alors justement, en faisant comprendre qu'il y a deux formes de discussion politique en famille, il y a le pugilat qui est stérile, c'est le bras de fer. Je veux démontrer que j'ai raison, l'autre en face de moi n'est pas d'accord, donc je vais l'écraser devant tout le monde, parce qu'il y a des témoins à chaque fois. Il y a des gens qui participent pas, qui disent « Oh là là, c'est encore le cirque ». Donc il y a ce côté-là, pugilat, et il y a une autre conversation possible, la conversation basée sur le témoignage ou sur la transmission. Par exemple, quelqu'un qui est conseiller municipal ou qui connaît un conseiller municipal qui va nous dire, bah voilà, le boulot, ça consiste en ça. Et les conseillers, ben, ils rament. Parce que la politique, en très grande majorité, ça concerne des gens qui sont sur le terrain et dont on n'entend pas parler et qui s'en prennent plein la tronche. Donc ça, c'est le témoignage, mais aussi la transmission. Par exemple, pourquoi moi, dans ma jeunesse, j'ai pensé que ceci ou cela, j'ai milité pour tel parti, pas pour tel autre. Dans le contexte, ça s'expliquait par ceci ou cela. J'ai réussi, je suis fier de moi pour telle raison. J'ai échoué ou j'ai changé d'avis pour tel autre. Oui, il y a une histoire derrière, il y a une transmission. C'est plus du tout le combat de coq.
Charles Laroche, on a des témoignages qui nous disent oui, il faut parler politique parce que c'est constructif et c'est important. Barbara qui dit il faut surtout pas éviter les conversations politiques. On a Laurent qui nous dit surtout n'en parlez jamais parce que sinon ça tourne mal. Comment est-ce qu'on peut trouver en fait un juste milieu? C'est difficile de ravaler toujours son opinion et d'écouter quelqu'un déverser des idées avec lesquelles on n'est pas toujours d'accord.
Bah, surtout que l'idée qu'on voit dans la vie sociale, c'est qu'un conflit, si on l'évite, il va pas mourir, il va pourrir. Et il va faire éruption. Et en fait, même quand on est quelqu'un de modéré, il y a un moment donné où on peut complètement exploser parce qu'on justement on entend des propos insoutenables. Donc on est obligé d'aller au combat.
À l'instar de Julien, qui nous expliquait qu'à un moment donné, Noël, ça avait pété.
Et en réalité, je pense qu'ils se sentent mieux, ou en tout cas plus fiers, que s'ils ne l'avaient pas fait. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que déjà, ne serait-ce que d'un point de vue psychologique, de sortir de table en disant j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. Et ça, du coup, c'est pour ça que c'est intéressant et important. Et je pense que n'importe quel décideur politique doit justement profiter des dîners de famille pour un peu prendre la température, ne serait-ce que de la société. Et surtout, et ça aussi, c'est un élément, c'est certes, il peut y avoir des pugilats, mais aussi, c'est bien de voir les constats d'échec qu'on peut avoir dans une société. Et clairement, s'il y a une leçon qu'on peut retenir, ce qui vaut dans les familles de vraie valeur dans la société, c'est qu'il faut peut-être écouter toutes les opinions, mais il faut surtout que les modérés se fassent entendre et se fassent comprendre.
Oui, ces fameuses voix que l'on entend si peu.
Qui sont si ennuyeuses, mais pourtant qui ont souvent raison.
Et qui sont souvent les plus sages. On en a déjà parlé dans notre émission. Est-ce que ce sont les voix les plus discrètes que l'on entend moins, qui sont celles que l'on devrait écouter le plus. On a aussi Jean-François Marmion, une question qui nous est posée, un point de vue, c'est Céline qui nous écrit. Oui, effectivement, ça peut péter, mais ça fait partie du débat. L'essentiel étant de savoir retomber après. Est-ce qu'il y a de laisser la pression retomber après. Est-ce qu'il y a un code, Jean-François Marmion? Est-ce qu'on peut dire, alors, écoute, on rentre dans un sujet là, mais on ne s'engueule pas, on en parle d'une façon animée, mais à un moment donné, on arrêtera tout.
Oui, il y a certaines formules.
Ça fait partie du jeu, quoi.
Oui, il y a certaines formules à éviter. Par exemple, mais tu ne peux pas dire ça. Alors là, c'est un réflexe, vous allez le répéter automatiquement. Non, en fait, c'est des techniques d'affirmation de soi. Hein. Bon, je tiens compte de l'opinion d'autrui. Ok, je vois que tu penses ça, je vois que tu ressens ça. Ouais. Eh bien, moi, je pense ceci, je ressens cela, chacun son truc. Voilà, mais pas dire tu as tort, je vais t'écraser, je vais le prouver. Comment tu peux penser une chose pareille? Tu penses une chose pareille, moi je pense une autre. Ok, tout va bien. On n'est pas des clones. Et si on veut une conversation tiède, soporifique, on parle du temps qu'il fait pendant tout le repas de famille, mais on s'en souviendra pas. Par contre, la définition, on se définit aussi par les choses auxquelles on s'oppose.
Ce que l'on n'oubliera pas, c'est votre livre Psychologie de la connerie en politique aux éditions Sciences Humaines. Merci Jean-François Marmion d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
C'est un Charles Laroche, vous êtes professeur de rhétorique, donc rapidement, voilà, ça fait partie du jeu aussi.
Oui, il faut assumer les désaccords, ils sont sains dans une démocratie, ils sont même inévitables, mais en revanche, il y a un point sur lequel il faut insister, c'est qu'on peut être en désaccord sur des opinions, on ne peut pas être en désaccord sur des faits. Et là, c'est un point juste d'une piste d'ouverture et qui pourrait faire l'objet d'une émission en soi, c'est que malheureusement, de plus en plus, on voit, ça a toujours existé, mais on voit aussi que des personnes tiennent des discours conspirationnistes ou complotistes et qui, justement, démoralisent totalement parce que c'est le rapport à la vérité qui est biaisé. Et là, malheureusement, c'est un combat inacceptable et on n'a pas de solution clé en main là-dessus.
Le complotisme, ce sera notre sujet de vendredi, justement. Pourrions-nous tous devenir complotistes et tomber dans le panneau du complotisme? Donc, ce sera vendredi avec vous sur RTL. Merci beaucoup Charles Laroche. Le petit livre des pires lapsus, c'est génial et c'est aux éditions First. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous tous. On remet ça demain dans la joie et dans la bonne humeur dès 14h30 sur RTL. On va s'intéresser à notre libido. La crise sanitaire a-t-elle eu raison de notre libido? Est-ce que vous avez envie de faire des galipettes vous en ce moment? Eh ben, ce sera demain avec vous pour en parler dès 14h30. Prenez soin de vous, à demain.
RTL, on est fait pour s'entendre.